Peut-être pour le dernier jour du mois d'août, je voulais partager encore avec vous une autre méditation que j'ai, enfin une autre lecture que j'ai faite pendant les vacances. À part le prophète Abdias, j'ai lu aussi le livre de Job et il y a un chapitre qui m'a beaucoup attiré. Et ce matin, peut-être que je ne saurais pas tout dire sur ce chapitre-là, mais je voulais le partager quand même, comme un encouragement alors que nous allons entamer le début de l'année. Ce n'est pas encore évidemment le message que j'apporte pour vraiment nous encourager à débuter l'année, mais déjà quand même en guise de lecture, je voulais quand même partager ce texte avec vous. Vous allez voir que c'est un texte très intéressant et très riche à certains égards. Nous allons donc le lire ensemble, le parcourir. C'est le livre de Job, c'est le chapitre 19. On va lire dans son entièreté. Vous en faites pas, il n'y a pas beaucoup de versets. Hein. C'est pas comme le psaume 119. Hein. Donc ça, on peut lire peut-être pendant tout un culte, mais ici ça va, tout va bien. Job 19, du 1er au 29e verset. Job prit la parole et dit... Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà dix fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous me démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne me répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ces troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confident m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit dans l'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Waouh ! C'est pas ce genre de texte qu'on aimerait beaucoup entendre tous les jours. Hein ? C'est pas des textes qui disent « Ouais, c'est la joie, c'est le bonheur, tout va bien, alléluia. » Ici, il y a une situation difficile et une situation pénible. Ce matin, j'aimerais intituler simplement cette méditation, le titre, je vais l'intituler « Mon Rédempteur est vivant ». Pourquoi? Parce que je pense que le verset 25, c'est vraiment le verset clé de ce texte, de ce chapitre. C'est le verset vers lequel s'oriente, donne le sens à tout ce qui se passe dans ce texte. C'est vers ça que nous devons mettre notre focus. Peut-être avant de continuer plus loin, inclinons-nous pour prier, pour demander l'aide de Dieu qui nous conduise. Vous savez, lorsque quelqu'un prêche, il a reçu pour lui, il a reçu pour vous. Mais ce qu'il a reçu pour vous ne peut pas être traduit dans des mots que vous pouvez comprendre, vous, par lui. Je peux prêcher des choses, vous m'entendez, mais vous comprenez juste le contraire de ce que je dis. Mais si par le Saint-Esprit, nous demandons tout ce que le Saint-Esprit nous illumine et nous aide, à ce moment-là, ce que je dis, vous le recevez. Non pas comme moi j'ai voulu vous le dire, mais comme le Seigneur a voulu vous le transmettre. Et ça, c'est le plus important. Parce que beaucoup d'incompréhensions naissent de ce qu'on se dit. Mais lorsque nous sommes unis par le Saint-Esprit, et que c'est le Saint-Esprit qui est le canal par lequel nous recevons mutuellement sa parole, il n'y a plus d'incompréhension entre nous. Chacun reçoit pour sa part, et chacun avance avec ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père, devant ta parole, nous commençons par confesser d'abord notre incapacité à la comprendre, si ce n'est par toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, ton aide par le Saint-Esprit, qui nous illumine, qui nous rende intelligents pour comprendre cette parole, pour aussi traduire cette parole dans nos vies de tous les jours, pour pouvoir l'imprimer dans nos cœurs et pouvoir la vivre pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume. C'est ma prière, Seigneur, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Mon Rédempteur est vivant, je le sais. Il se lèvera le dernier. Mais peut-être pour pouvoir éclairer d'abord ce texte, ce chapitre, il faut peut-être commencer par donner le contexte de ce chapitre. Job souffre. Il souffre affreusement. Peut-être que, qui connaît un peu l'histoire de Job? Levez la main ceux qui connaissent l'histoire de Job. Nous ne sommes pas très nombreux. Qui a déjà entendu parler de l'histoire de Job? Tout le monde peut-être, non? Parce que je ne veux pas quand même recommencer tout depuis le commencement. Ce serait quand même mieux que je sois sûr que vous savez quand même que le nom de Job est associé à la souffrance. Ça, vous savez. Ok, c'est déjà très bien. Si on sait déjà ça, on peut démarrer avec ça. Le reste, vous savez quoi? Vous prenez le livre de Job, vous le lisez. Voilà. Job souffre affreusement. Il souffre d'abord physiquement. Il le décrit lui-même. Regardez le verset 20. Je vais faire travailler un peu mon ami ici, mais... Voyez, verset 20. « Mes os se sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. » Il souffre physiquement. Il a maigri énormément. Il a mal dans sa peau. Il a mal dans son corps. Mais il souffre aussi psychologiquement. Il est rejeté. On l'insulte. On se moque de lui. On l'humilie. On le considère comme quelqu'un de rien du tout. Il voit dans le regard des autres de la pitié, mais aussi du jugement. Même ses meilleurs amis en viennent à lui dire, « Mais tu sais quoi, Job? Si tu es comme ça, tu sais pourquoi, Job? C'est parce que tu as péché. Il y a un péché quelque part dans ta vie qui fait que tu souffres comme ça. Tu ne souffres pas pour rien. Dieu t'a puni, Job. Dieu t'a puni parce que tu as commis un péché. » Imaginez que vous êtes innocent dans un problème. Que vous êtes innocent. Mais qu'on vous charge. En disant, non, t'es pas innocent. Non. T'as pas volé, mais oui, non, mais t'as volé. À vous. C'est la situation de Job. Il sait qu'il n'est pas coupable. Il sait qu'il n'a rien fait de mal. Mais ses amis lui disent, non, t'as péché. a péché, c'est à cause du péché. Job souffre aussi spirituellement. Pas seulement physiquement, pas seulement psychologiquement, mais aussi spirituellement. Job, il se sent l'objet d'une punition de Dieu. Il se sent abandonné par Dieu. Il sent la colère de Dieu sur lui. Il a l'impression que Dieu s'acharne sur lui. Regardez, le verset 6, le verset 11, il le dit. « Sachez que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Je crie, voici je crie à la violence et nul ne répond, j'implore justice et point de justice. Dieu m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mon sentier, il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête, il m'a brisé toute part et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre, etc., etc. » Souffrance spirituelle d'un homme qui se sent abandonné par un Dieu en qui il a tout investi. Et il sait qu'il est innocent. Il le déclare plusieurs fois. C'est parce que on devrait revoir un peu l'ensemble du texte, mais il le déclare plusieurs fois. Et non seulement lui le déclare, mais Dieu le déclare aussi. Job est malheureux. Job est malheureux et il est mal entouré par des amis qui, en croyant le consoler, sont occupés à le culpabiliser. Et le pauvre, il ne sait pas quoi faire. Alors, devant cette souffrance horrible, Job aussi se révolte. Job devient amer. Il devient aigri. Il est aussi en colère. Quelque part. Est-ce que quelqu'un peut le blâmer? Quelqu'un peut-il le condamner d'être devenu amer, d'être devenu aigri à cause de la souffrance? Non. Moi, je ne peux pas le blâmer. Parce que, au cœur de la souffrance, on finit par se rebeller, par s'énerver, par se révolter. On finit par chercher un coupable de mon malheur, de ma souffrance. Et le coupable, je finis par lui rentrer dedans. C'est humain. C'est ce que Job fait. Job a des paroles, vous avez lu, vous lisez avec moi, des paroles dures, des paroles de souffrance, des paroles de quelqu'un qui a mal. Petite parenthèse, lorsque vous avez quelqu'un dans la vie qui est dur dans ses propos parfois, ne regardez pas seulement qu'il est méchant. Regardez que parfois, c'est une dureté due à des souffrances que vous ne connaissez pas. Il souffre. Et sa souffrance a l'allure d'une souffrance injuste. Parce qu'elle n'a pas de sens. Il a fait tout ce qu'il fallait. Job est un homme correct. Mais pourquoi donc il souffre? Il a fait tout ce qu'il fallait. Il est amer, il est dépité, il est dégoûté. Et nous pouvons le comprendre. Et Job, parenthèse, croit que c'est Dieu qui le fait souffrir. Parce qu'il ne voit pas quelqu'un d'autre. Il ne sait pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais nous savons, dans le texte ici, dans l'ensemble du livre, nous savons que la souffrance de Job, c'est le diable. C'est Satan qui est à la base de cette souffrance. C'est lui qui l'a réclamé. C'est lui qui a dit, mais oh, tu le gâtes un peu trop ton Job là. Laisse-le-moi un tout petit peu, tu vas voir comment je vais faire. C'est Satan. Mais Job ne le sait pas. Et pour Job, il pointe du doigt Dieu. Et vous savez, c'est la même chose avec nous. Hein. Quand la souffrance nous pèse énormément, on ne regarde pas que ce soit Satan qui nous embête. On va dire, mais Seigneur, Pourquoi tu laisses ça? Pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi tu ne viens pas intervenir? Pourquoi tu n'agis pas, Seigneur? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne te lèves-tu pas? Et on peut se demander à ce niveau, mais finalement, à la lumière de ce texte, d'où vient la souffrance? D'où vient cette misère qui est la nôtre parfois? D'où vient toutes ces malheurs, ces successions de malheurs par lesquels on vit, qui nous font mal et qui nous déstabilisent? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que, deuxième question, est-ce que un Dieu bon et compatissant peut-il faire souffrir un homme, surtout un homme juste? Est-ce que la souffrance vient-elle de Dieu? Ce sont des questions que des non-croyants nous posent tout le temps. Vous avez un Dieu, vous dites qu'il est bon, votre Dieu il est bon, mais alors pourquoi la souffrance? Pourquoi les épreuves? Pourquoi la guerre? Pourquoi la haine? Pourquoi toutes ces choses horribles qu'on écoute à la radio? Si votre Dieu est si bon, plus encore, votre Dieu est bon, mais si il s'occupe pas des gens du monde, d'accord, les non-croyants, d'accord, mais pourquoi vous souffrez, vous les croyants? Vous êtes juste, non? Vous êtes sauvés, non? Mais pourquoi vous souffrez? Voilà des questions que les gens du monde nous posent. À la lumière de ce texte, nous voyons que la souffrance vient du diable. Le point d'ancrage du diable par rapport à nous, c'est le péché. Avec notre nature pécheresse, le diable a accès à nous et peut nous faire souffrir de manière telle que nous puissions nous rebeller contre Dieu. Son but, c'est quoi? Son but, c'est que nous puissions renoncer à Dieu, que nous laissions tomber Dieu, que nous tournions le dos à Dieu, que nous nous rebellions contre Dieu, que nous laissions tomber les choses de Dieu. Et c'est être un autre but secret, c'est qu'il désire, lui, être Dieu à la place de Dieu, et que nous soyons ses adorateurs. La souffrance vient du diable. Mais ça ne résout pas tout le problème. Parce que si la souffrance vient du diable, pourquoi est-ce que Dieu qui est puissant ne l'empêche-t-il pas alors? Pourquoi est-ce qu'il n'empêche pas Satan? Et dans le cas de Job, on voit même qu'il l'autorise. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Dieu permettrait-il la souffrance? Autoriserait-il la souffrance? Peut-être que ce serait bien que nous puissions lire ce texte. Job 1, le chapitre 1. Alors, regardez, ça c'est le début du livre de Job. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ne me demandez pas pourquoi, comment. Je vois dans le texte que c'est comme ça, ok? On ne va pas discuter de ça maintenant tout de suite, là, avançons avec. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Regardez ce qu'il dit de Job. C'est Dieu qui témoigne. Écoutez ce qu'il dit. « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. » Craignant Dieu et se détournant du mal. Alors Satan va lui répondre, va répondre à l'Éternel en disant, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni son œuvre de ses... Ouais, on s'est arrêté là, hein, voilà. De ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dieu permet-il la souffrance? C'est un texte bouleversant. Rebelote. On va reprendre encore la deuxième fois, au chapitre 2. C'est ça qu'on avait dit, hein? Voilà. Très bien. Rebelote. Donc, il le frappe d'abord des morts. La famille de Job meurt. Tout le monde s'en va. Et puis, Satan revient encore devant Dieu. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu rebelote pour la deuxième fois, donne encore le témoignage. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure dans son intégrité. Waouh ! Un élément en plus. Il persévère. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Vous voyez ça ? Sans motif. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Est-ce que Dieu permet-il l'épreuve? Dieu permet-il la souffrance? Si Dieu est puissant, pourquoi n'a-t-il pas empêché? Pourquoi a-t-il autorisé Satan à toucher un homme intègre, juste? Alors, première chose, nous voyons qu'effectivement Dieu autorise, permet à des conditions limitées, c'est-à-dire on ne touche pas à la vie, on épargne la vie, etc. Il permet la souffrance. Il permet que même un juste passe par la souffrance. Ça, c'est ce qu'on constate. Dieu l'autorise, mais pourquoi? C'est ici qu'il faut voir, non pas sur cette partie du texte, mais sur l'ensemble du texte, d'un bout à l'autre. Il y a 42 chapitres. C'est là que vous allez comprendre. Si Dieu autorise la souffrance, c'est parce que Dieu a un autre but que Satan. Le but de Dieu, c'est de former le caractère du chrétien. Le but de Dieu, c'est de lui apprendre l'endurance et la persévérance. Pourquoi? Parce que la persévérance et l'endurance sont nécessaires à la marche chrétienne. Personne n'a dit que la marche chrétienne était une marche de tout repos. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est une marche avec beaucoup de combats, avec beaucoup d'adversité. Et c'est parce que c'est en apprenant l'endurance, en apprenant la persévérance, en apprenant à se battre chaque jour que l'on devient plus fort et qu'on peut alors connaître une marche victorieuse. Satan est impitoyable. Il n'a aucune pitié avec les croyants. Et si le croyant ne sait pas comment se défendre spirituellement, il va avoir des problèmes. D'où Dieu, dans sa sagesse, autorise que les souffrances nous soient aussi infligées. Ces souffrances, nous les appelons les épreuves. Ça, c'est le mot que nous appelons, les épreuves. Elles sont nécessaires pour notre marche victorieuse. Voilà pourquoi un croyant juste comme Job passe par la souffrance. Mais il y a tellement de choses à dire. Je vais juste m'arrêter là. Pour, simplement sur la notion de la souffrance. Et peut-être continuer dans le texte en mettant peut-être le focus sur un truc qui est quand même frappant. Voyez, malgré les plaintes, malgré le désespoir de Job, malgré son état complètement dépité par cette situation qu'il ne comprend pas, au-delà des mots de colère, parfois, qu'il adresse même vers Dieu, hein, quand il dit, voilà, je crie, il n'y a personne qui me répond là-bas, etc. Dieu me frappe, Dieu me punit. Il y a dans le discours de Job quelque chose comme un espoir. Un espoir et comme une persévérance. Job persévère à chercher Dieu. Il veut quand même s'attacher à Dieu. Vous savez, c'est pas dans ce texte, ça se voit pas, mais dans d'autres textes, Job dit, je cherche à voir Dieu. Je veux une confrontation avec lui. Je veux qu'il m'explique pourquoi je suis en cette situation. pourquoi je souffre comme ça? Et lui, il est Dieu. Job ne renonce pas, en fait. Donc la manœuvre du diable échoue. Il n'arrive pas à le casser de l'attachement à Dieu. Au contraire, Job continue, malgré ses pleurs, malgré ses difficultés, malgré la dureté de la situation, il continue à persévérer et à croire que Dieu peut le voir. Il réclame de voir Dieu. Il s'en remet à lui. Il espère encore dans la justice de Dieu. Il espère encore dans la miséricorde de Dieu, malgré les souffrances. Quelle exhortation pour nous ce matin. Nous sommes parfois confrontés à des situations difficiles dans la vie. Parfois c'est très dur, on a des choix difficiles. La maladie qui nous embête, on ne dort pas la nuit. Et alors on est là, on se dit, mais punaise quoi, comment ça se fait que je peux souffrir autant? Quand je lis dans la Bible, je vois qu'il y a des guérisons, Dieu guérit, et moi je souffre. Punaise, comme j'ai des enfants, mais il y a des tas de choses qui peuvent être là en train de nous envahir. Vous savez, la femme de Job a dit quoi à Job? Devant cette souffrance implacable, la femme de Job a tiré une conclusion simple. Puisque c'est Dieu que toi à Dieu tu t'es attaché, que tu as laissé toute ta vie, et que c'est ce Dieu-là qui te fait tant souffrir, mais maudis-le, laisse-le tomber, tourne le dos, va-t'en, laisse-le tomber. C'est ce que la femme de Job a dit à Job. Maudit Dieu, et meurs. Mais Job va dire, non femme, tu comprends pas. Job veut persévérer. Au fond, il sait qu'il y a quelque chose qui est là, qui n'est pas comme elle doit être. C'est ce matin, pour nous, pour vous, pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, où parfois on se pose des questions parce qu'il y a trop de misère, parce qu'il y a trop de questions, trop de problèmes, peut-être penser à Job. Et se dire, de là où il était Job, je ne sais pas si la souffrance que Job a vécue, il y a beaucoup de gens qui vivent cette souffrance-là. Perdre tout. Sa femme, ses enfants, perdre ses biens et être écrasé par la maladie, et devenir l'objet de moqueries, etc. C'est quand même un concentré de souffrance sur un seul individu qui, ça doit être très très dur. Mais de là où il était, Job avait un espoir. J'aimerais aussi attirer votre attention sur une chose. C'est vrai que la souffrance nous fait beaucoup parler, et parfois aussi nous fait parler mal, même à l'égard de Dieu. C'est ce que Job va faire. Parfois quand on rencontre des gens qui sont complètement dépités de cette façon-là, ne les jugeons pas. Bien sûr, on ne doit pas les encourager à parler mal contre Dieu. C'est pas ça que je sens de dire. Il ne faut pas lui dire, oui, tu parles mal contre Dieu. Ouais, allons-y. Non. Il parle mal contre Dieu. Il faut l'emmener à comprendre qu'il parle mal contre Dieu. Mais il ne faut pas le juger. Parce que la souffrance, elle est profonde. Aide-le à sortir d'abord de sa souffrance. Et à comprendre où est Dieu dans sa souffrance. Au fond, le livre de Job, je vais faire plaisir aux philosophes en herbe qu'est Cyril, au fond, le livre de Job, c'est un livre de l'interrogation. Où est Dieu? Où est Dieu dans ma souffrance? Où est Dieu dans ma vie? Surtout quand ma vie ne fonctionne pas comme elle doit fonctionner normalement. Il est où? Pourquoi se tait-il? Pourquoi ce silence? Enfin, je ferme la parenthèse. Pourquoi est-ce que malgré les larmes, les cris, les douleurs, les cris de douleur, la peine, pourquoi est-ce que Job poursuit-il encore, persévère-t-il encore à croire que quelque chose va se faire encore en sa faveur de la part de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il continue? Pourquoi est-ce que toute cette souffrance a du sens pour lui? Eh bien, c'est pour ça que je disais que le verset 25, c'est la matrice centrale, c'est le centre de gravité du texte. Parce que Job sait que son Rédempteur est vivant. C'est la réponse. Si Job peut persévérer dans toute cette souffrance, c'est parce qu'il sait qu'il a un Rédempteur qui est vivant. Un Rédempteur. Encore des mots bibliques qui vont peut-être pas avoir trop de sens dans la société de tous les jours. Vous allez dire à quelqu'un, Jésus est mon Rédempteur, il va te regarder et dire, est-ce que la mouche est passée dans le coin? Un Rédempteur. Pourtant, c'est un mot qui est profond de sens pour nous. Parce que Job sait qu'il a un Rédempteur et que son Rédempteur est vivant, alors il croit qu'il s'en sortira, que toutes ses souffrances cessera, que la souffrance a du sens, que l'épreuve a du sens. Un Rédempteur, en hébreu, il y a le mot Goël pour le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est un proche parent d'une personne qui va racheter ses dettes, qui va le sauver d'une situation périlleuse. C'est ça, un Rédempteur. Vous avez un bel exemple avec Boaz et Ruth. Si vous connaissez un peu l'histoire. Un Rédempteur, c'est quelqu'un qui vient pour sauver l'autre, son frère de la famille, son parent de la famille. Il vient le sauver d'une situation périlleuse. Souvent, c'était des menaces d'esclavage. On était prêt à prendre le frère pour l'amener, le vendre comme esclave, et lui, il le rachetait en payant tout ce qu'il avait comme dette et tout ce qu'il avait comme problème. Dans ce texte, le Goël, le Rédempteur, va se lever le dernier sur la terre. C'est-à-dire, il va être celui qui mettra fin à la souffrance, qui aura le dernier mot. C'est après lui, il n'y a plus rien. Ça souligne sa puissance. Ça souligne sa capacité de tout résoudre et de tout terminer comme problème. Le Rédempteur, c'est celui aussi qui va exister par-delà la mort. Job dit, le verset suivant, « Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand ma peau, après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. » Le Rédempteur, quelque part, ce texte dit, ce Rédempteur va me justifier, va me déclarer juste. Regardez le verset 27. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, mes yeux le verront, non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Tu peux montrer encore le verset 28? Hop, voilà. Vous le verront, non pas ceux d'un autre, mon âme languit d'attente au-dedans de lui, au-dedans de moi. Vous direz alors pourquoi le poursuivons-nous, car la justice de ma cause sera reconnue. Le Rédempteur va le justifier, va lui permettre de faire valoir sa cause. Et enfin, le dernier verset dit, le verset 29 là dit, le Rédempteur exercera la justice. Et il va émettre un jugement. La question, le temps passe. La question, c'est qui est donc ce Rédempteur? Y a-t-il dans la Bible un tel personnage? Oui, bien sûr. Dans la Bible, il y a un tel personnage. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre Goël. Notre Rédempteur, celui qui est venu comme notre proche parent, en prenant notre humanité, est devenu notre frère par son humanité. Et il est devenu notre proche parent par l'incarnation. Et après sa mort, c'est ça le prix qu'il a payé, sa mort sanglante à la croix, il paye pour notre péché qui nous destinait à être esclaves. Pour toujours de Satan. Il paye pour nous à la mort, à la croix. Puis, il ressuscite par la puissance de Dieu, comme pour manifester que cette œuvre à la croix est une œuvre parfaite Dieu s'est levé le dernier comme le Rédempteur. Il se lèvera le dernier. Et ça sera terminé. La mort n'est plus. Le péché n'a plus de pouvoir. Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et c'est lui qui reviendra juger l'humanité. Le Rédempteur que Job a vu par la foi, nous l'avons connu grâce à la révélation de la parole de Dieu. Ce matin, je vais terminer par là. C'était juste un petit partage de ce que moi j'ai ressenti de cette lecture. Je me suis arrêté à un moment, j'ai dit « Waouh !» quoi. Je me suis dit « Je vais partager quand même cela. » Ce matin, peut-être nous pouvons avoir vraiment ce sentiment de se dire « Nous sommes bénis. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que nous avons connu Christ. » Parce qu'au milieu de nos souffrances, de nos épreuves, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Oui, les souffrances, nous n'allons pas échapper à ça. Nous avons bien compris ça maintenant. Mais nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves, dans nos souffrances. Un sauveur est disponible pour nous délivrer. Je vais juste terminer avec ces deux affirmations. Première affirmation que j'aime beaucoup. Il dit, je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. Il ne s'agit pas d'une hésitation, de est-ce qu'il existe, il n'existe pas. C'est une affirmation. C'est une certitude. La foi, mes amis, la foi, ce n'est pas quelque chose de je crois peut-être que. La vraie foi, c'est celle qui dit ce que Dieu a dit est juste. Et c'est vrai. Et c'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va changer. On ne va pas discuter. C'est comme ça. Dieu a dit que vous serez sauvés. On est sauvés. Point barre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce n'est pas une question sur laquelle j'hésite. Je suis sûr de ça. La foi est une certitude. Et j'aime ça. Parce que ça veut dire que dans ma vie, je ne marche pas à tâtons. Je ne suis pas en train d'aller en me disant peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais si je compte, si je lis ma parole de Dieu, si je vois ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, je sais que c'est la vérité. Je sais que ça s'appliquera. Si Dieu dit quelque chose qui va se faire, ça va se faire. Je sais. Deuxième chose, il dit mon Rédempteur. Il ne dit pas le Rédempteur. Il dit mon Rédempteur. Merveilleux Seigneur. Job ne parle pas d'un sauveur universel. Il parle aussi et particulièrement d'un sauveur personnel. D'un sauveur qui vient dans sa situation particulière pour le délivrer. C'est ce qu'est Jésus-Christ pour nous. Un sauveur personnel. Est-ce que nous réalisons ça aussi ? Et on peut se poser la question, mais comment Job a-t-il anticipé tout ça? Eh bien, c'est la foi de Job qui l'a amené à anticiper tout ça. C'est sa relation avec Jésus. C'est sa proximité avec Dieu qui l'a fait sentir, connaître par la foi qu'il y a des choses là, des vérités là. Ce matin, que ces vérités nous conduisent et nous aident dans notre marche personnelle avec Dieu. N'ayons pas peur de nos souffrances, mais comptons sur Dieu, sachant que nous avons un Rédempteur qui est vivant. Plus que simplement d'intervenir ponctuellement dans nos vies, le Rédempteur a fait quelque chose de beaucoup plus grand et nous a sauvés à la croix. Et depuis, nous lui appartenons. Que toute la gloire lui revienne. Amen.